entrecoupées de coins de ciel bleu donneront des averses. Ces averses généralement espacées, peu durables, s'accompagneront près des côtes de la Manche d'un vent de sud-ouest assez soutenu. Sur le sud et sur les régions de l'est, dans une atmosphère moite, le temps tournera à l'orage. Ces orages isolés sur les Savoies et par du Lyonnais à l'Alsace seront en fin d'après-midi des Pyrénées au Massif central beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts. En fin de journée, cette dégradation orageuse s'étendra vers le littoral languedocien. Finalement, cet après-midi, seule la Côte d'Azur et la Corse conserveront un temps bien ensoleillé. Quant aux températures, encore proches d'une trentaine de degrés cet après-midi dans la vallée du Rhône, en Provence, voisine de 27 degrés sur le sud-ouest comme en Alsace. Elles ne dépasseront pas 24 à Paris, 23 à Lille, 20 degrés sur le Finistère. Demain, le temps deviendra provisoirement beaucoup plus calme mais plus frais. Sur le midi méditerranéen, après un début de matinée très orageux, le temps s'arrangera demain après-midi.
Merci Joël Collado, France Inter, il est 13h20, tout de suite rendez-vous avec X de Patrick Pénaud. Aujourd'hui, ouvre le dossier de l'affaire du Santa Maria.
C'était une première, la prise de contrôle en pleine mer d'un paquebot transportant plus de 600 passagers et 350 hommes d'équipage. Acte de piratage ou spectaculaire manifestation politique pour les propriétaires du bâtiment battant pavillon portugais et pour le gouvernement de Lisbonne, il ne fait nul doute que les 25 hommes qui se sont emparés du navire sont des pirates qui doivent être traités comme tels. Mais pour les hommes du commando et d'une façon générale pour les opposants à la dictature de Salazar, c'est une action politique. D'ailleurs, les pseudo-pirates n'ont-ils pas proclamé tout de suite que le Santa Maria, aussitôt rebaptisé Santa Liberdade, était désormais une parcelle de territoire portugais libéré? Monsieur X se propose donc de nous raconter cette semaine cette extraordinaire odyssée qui, en cette année 1961, a alors un énorme retentissement dans le monde entier qui va voir intervenir plusieurs gouvernements étrangers. Plus important encore, cet événement aura des répercussions considérables sur l'avenir du Portugal et marquera le commencement de la fin d'un régime totalitaire vieillissant et d'une société figée depuis plus de 30 ans. Et au fond, il faut sans doute voir dans l'aventure un peu folle du capitaine Galvan et de ses hommes l'amorce de ce qui deviendra, 13 ans plus tard, la révolution des œillets.
Pour aller te voir, il faut prendre le train. C'est simple, ça me berce, j'aime bien. Je pense à toi depuis chez moi. Avant même qu'il en soit question, quand je comptais les moutons, ils se mettaient souvent au volage, à sauter par-dessus le tâche. Alors je les imitais, puis manquant de prendre l'eau, me tirais jusqu'à la rive, une langue des fluves de Porto. J'ai le sucre au bord des lèvres, le rubis au creux du ventre, un petit creux aussi c'est vrai. Dîner de sardines me dirait, sur un lit de tomates vertes, le vent du soir boisé eucalyptus. Porto, malgré mon trait, voici maintenant en mariage, me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus doux des peut-être, et j'attendrai tes apports que tu sois prête. Mon corps et mon cœur demandent encore à chaque heure que je m'en aille flâner dans tes jardins, les mains sous l'eau de leur fontaine. Que je m'étonne encore du courage des pêcheurs et de leurs barques aux voyantes couleurs sur le rose pâle de l'eau. Petite farandole de fleurs blanches écume à leur sillage, me voilà parti à la nage, partagé sur un bateau un verre de vieux vin de Porto. Malgré mon très jeune âge, voici maintenant en mariage. Me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus tôt des peut-être, et j'attendrai tes abords que tu sois prêt. Pour tout, malgré mon traînage, voici maintenant dans mariage. Me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus doux des peut-être, et j'attendrai tes abords, j'attendrai.
France Inter, rendez-vous avec X.
L'affaire a été bien préparée. Il fait nuit lorsqu'une trentaine de passagers du Santa Maria quittent leur cabine et se métamorphosent soudain en pirates.
Un mot d'abord sur ce paquebot, là, le Santa Maria.
Bon, si vous voulez, c'est un des fleurons de la flotte commerciale portugaise. Un bâtiment luxueux qui navigue sur la ligne entre Lisbonne et la Floride via Madère et les Caraïbes. C'est donc en pleine nuit que les guerrieros s'emparent du paquebot.
Où se trouve alors le Santa Maria ?
Il navigue alors dans les Caraïbes, là où il a fait plusieurs escales. L'affaire est rondement menée. Il monte jusqu'à la passerelle du commandant et annonce qu'ils sont désormais les seuls maîtres à bord. Toutefois, il y a un incident assez grave.
Quoi, hein ?
L'officier de quart ne se laisse pas faire. Il y a une rixe, des coups de feu, l'homme s'écroule, mortellement blessé. Quelques autres membres de l'équipage sont aussi touchés.
Là, le commando est donc armé, hein?
Naturellement, mais pauvrement armé. Seuls les deux tiers de ces hommes possèdent des armes à feu. Les autres ne disposent que d'armes blanches.
Ouais, effectivement, petit armement. Et l'équipage?
Il n'y a pas d'armes à bord. Les assaillants, eux, ont dissimulé leur petit arsenal dans leurs bagages. À l'époque, en 1961, les bagages des passagers ne sont pas fouillés. Et puis cette affaire est une première.
Oui, on ne s'était encore jamais attaqué à un navire de ligne.
C'est
hein,
ça, oui.
Et ces hommes, alors?
Ils se présentent eux-mêmes comme des militants d'un mouvement, d'une organisation encore inconnue, la DRIL. Ça veut dire la Direction Révolutionnaire Ibérique de Libération. Et ça signifie qu'il s'agit d'un commando mixte composé d'Espagnols et de Portugais.
Des militants qui s'opposent à leurs dictatures respectives.
Oui, celle de Franco et de Salazar. Mais les Portugais sont les plus nombreux. Leur chef est un personnage assez étonnant, Henrique Galvão. Et avant de voir la suite des événements, je vous propose de nous attarder quelques instants sur la personnalité de cet homme.
D'accord, je vous écoute.
Galvan, qui a alors plus de 60 ans, est un touche-à-tout. Écrivain reconnu, auteur de romans, de pièces, de théâtre et de récits. Mais c'est aussi un grand connaisseur de la faune africaine et un amateur de chasse au gros gibier. Mais c'est sa carrière politique et militaire qui fait la réputation de ce capitaine.
Parce que... C'est un authentique officier ?
Oui, même si à l'occasion de l'affaire du Santa Maria, il arbore un uniforme sur lequel il a cousu des étoiles fantaisistes. Galvan a d'abord fait des études militaires classiques, couronnées par un séjour dans notre école polytechnique. Jeune officier, il participe dans les années 20 au coup d'État qui met à bas une république portugaise vacillante. Coup d'État qui permettra ensuite à Salazar de s'emparer du pouvoir.
Ah oui, alors c'est un putschiste, là, lui aussi.
Incontestablement. Et ça lui vaut d'être nommé gouverneur d'une province angolaise.
L'Angola, c'est ça. C'est qui est alors la plus grande colonie portugaise.
Oui. Quelques années plus tard, passionné par l'Afrique, il est l'artisan d'une prestigieuse exposition coloniale organisée à l'occasion du 8e centenaire de la fondation du Royaume de Portugal.
C'est-à-dire qu'il est toujours très en cours.
C'est certain, puisqu'il devient ensuite député. Et bientôt, son destin va basculer. Chargé d'une mission d'enquête sur les provinces africaines, il rédige un rapport très critique sur l'administration coloniale et ses méthodes. Un rapport qui est aussitôt enterré. Furieux, Galvan bascule alors dans l'opposition au régime. Et pour faire taire ce personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche, on l'accuse d'un complot contre la sûreté de l'État et on l'emprisonne.
Oui, c'est classique. Hein.
Mais dès sa libération, Galvan récidive et en 1958, un tribunal qui siège à huis clos le condamne à une très lourde peine et à la dégradation militaire. 1958, c'est aussi l'année où, pour la première fois dans l'histoire de la dictature, un homme se présente à l'élection présidentielle contre le candidat de Salazar avec de fortes chances de l'emporter.
Qui ?
Un général, Humberto Delgado. un homme dont je vais vous reparler bientôt, car il n'est nullement étranger à l'affaire de la Santa Maria. Mais pour l'instant, il vous faut simplement savoir que Delgado, victime d'une fraude massive et d'une propagande éhontée en faveur du candidat de la dictature, échoue. Et ce n'est pourtant pas la faute de Galvan. L'ex-capitaine de sa cellule a mené une campagne électorale très efficace.
De sa cellule, voué à l'échec, cette campagne.
Forcément. Ouais. Un an plus tard, sous un prétexte quelconque, Galvan parvient à se faire hospitaliser et, déguisé en infirmier, il s'évade. Quelques jours après, il se présente à l'ambassade argentine et demande l'asile politique. Ce qu'il obtient après moult tractations entre Lisbonne et Buenos Aires.
Mmh. Et donc, Lima.
Et toujours décidé à se battre contre Salazar, il parcourt l'Amérique latine et mène une campagne contre la dictature portugaise.
Dispose-t-il alors de soutien ?
Très peu. Fidel Castro, qu'il est allé voir à Cuba, lui a peut-être donné quelques subsides, mais ça doit être à peu près tout. Et les militants qui vont l'accompagner dans l'affaire de la Santa Maria devront casser leur tirelire pour acheter leur billet de passager. Non, Galvan est très pauvre, vraiment très pauvre.
D'après le portrait que vous en avez tracé, là, est-ce qu'on ne peut pas penser que ce capitaine est une sorte d'illuminé ?
Bien sûr, c'est toujours ce qu'ont prétendu ses ennemis, mais non, pas un fou. Un exalté, oui. Un idéaliste, si vous voulez, un romantique, sûrement. Une sorte de Don Quichotte.
Admettons. Alors, revenons sur le Santa Maria.
Volontiers.
Comment réagit le capitaine du paquebot, là ?
Cet officier, le capitaine Maya, est un civil, bien entendu. Et lorsque Galvan se rend dans sa cabine, il n'a ni les moyens ni la volonté de résister. Au lieu de demeurer enfermé dans sa cabine ou dans la soute, il accepte la proposition de Galvan.
C'est-à-dire
Il reste commandant de son bâtiment à condition d'obéir aux ordres.
Ouais. C'est le véritable capitaine, c'est Galvan qui décide de la route à suivre.
Exactement. Mmh. Et sa priorité, ce sont les blessés, dont l'un est assez sérieusement touché. Le Santa Maria, devenu le Santa Liberdad, vogue vers l'île des Caraïbes la plus proche.
Il a été rebaptisé. Là.
Ouais. Ouais. C'est donc Sainte-Lucie, une possession britannique. Une chaloupe est mise à l'eau et les blessés et le cadavre de l'officier de gare sont débarqués. Et puis le paquebot s'éloigne.
Quel est l'objectif alors poursuivi par Galvan et son commando ?
Le but, c'est l'Afrique. Les hommes qui se sont emparés du paquebot veulent gagner les côtes africaines. Et très exactement, une colonie espagnole du golfe de Guinée, Fernando Po. De là, ils entendent préparer une attaque sur l'Angola et rallier à leur cause les populations indigènes qui réclament leur indépendance.
Est-ce que ça vous paraît réalisable, sinon réaliste ?
Pas trop, non. Non, c'est vrai que les colonies portugaises commencent à connaître un vent de rébellion. Surtout depuis que les autres grandes puissances ont accordé l'indépendance à leurs propres colonies. Mais les maquisards sont encore incapables de résister sérieusement à l'armée portugaise. Une armée qui n'est pas encore celle des capitaines de la révolution des œillères.
Et qui opposera donc une résistance aux rebelles, c'est ça ?
Certainement. Mais il faut aussi tenir compte du choc psychologique que provoquerait un tel événement. Le régime de Salazar risquerait d'être ébranlé.
Ouais. Alors, le Santa Maria, ou plutôt le Santa Liberdad, navigue vers l'Afrique.
Oui, mais pour peu de temps. Le détour humanitaire par Sainte-Lucie a retardé le navire et donc le plan de Galvan. Ça veut dire qu'il risque d'être repéré plutôt que prévu.
Attendez, avant d'aller plus loin, là, est-ce que la nouvelle est déjà connue ?
Assez vite, oui. Et c'est Galvan lui-même qui a pris l'initiative d'annoncer son action d'éclat. Il a envoyé un message radio à une chaîne de télévision américaine, à charge pour elle de diffuser l'information dans le monde entier. Le capitaine y déclare que le Santa Liberdad est devenu le premier morceau de territoire portugais libéré.
Parce que un paquebot peut être considéré comme une terre portugaise ?
Oui, mais Galvan s'est bien gardé de donner sa position et surtout, il a évité de dire ce qu'il entendait faire.
C'est-à-dire sa destination ?
Bien sûr, parce qu'il doute bien que les autorités portugaises risquent de réagir et même d'autres gouvernements, si son initiative est assimilée à un acte de piraterie maritime réprimé par les lois internationales sur la mer.
Je sais bien que l'océan Atlantique est immense, mais le paquebot ne peut pas très longtemps rester inaperçu. Hein.
C'est exact. Et effectivement, un cargo croise sa route 2 ou 3 jours après le début de l'opération. L'alerte est donnée. Peu de temps après, un avion de l'US Air Force survole le Santa Maria qui se trouve à mi-chemin entre l'Amérique et l'Afrique. Et Galvan, sans doute après avoir conféré par radio avec sa base terrestre, renonce à son objectif africain.
Allez, sa base terrestre.
Oui, au Brésil, où se trouve l'homme qui contrôle l'entreprise.
Qui alors ?
Ce général Delgado que j'ai brièvement évoqué, l'ennemi numéro 1 de Salazar.
Eu sei que esperas por mim, como sempre, como dantes, nos braços da madrugada. Eu sei que em nós não há fim, se somos eternos amantes, que não amaram mais nada. Eu sei que me querem bem, eu sei que há outros amores para bordar no meu peito, mas eu não vejo ninguém, porque não quero mais dores, nem mais batom no meu leito, nem beijos que não são teus, nem perfumes duvidosos, nem carícias perturbantes, nem infernos, nem céus, nem sol nos dias chuvosos, porque ainda somos amantes. Mas Deus quer mais sofrimento, quer mais rugas no meu rosto e o meu corpo mais quebrado. Requintado tormento, mais velhice, mais desgosto e mais um fado fado.
France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X.
Le général Delgado était-il le deus ex machina de cette opération spectaculaire? Monsieur X en semble persuadé. Quoi qu'il en soit, dans son premier communiqué envoyé à la chaîne NBC, Enrique Galvan se réfère à ce général qui a osé défier Salazar dans les urnes. Voici des extraits de ce document. Au nom de la junte internationale de libéraux présidée par le général Humberto Delgado, président élu de la République portugaise, privé frauduleusement de ses droits par le gouvernement Salazar, je m'empresse de me charger des forces sous mon commandement comme première mesure pour libérer les territoires nationaux. Nous ne pouvons pas révéler notre destination après avoir engagé ouvertement la lutte contre la tyrannie de Salazar. Nous essayons d'arriver à un objectif purement démocratique plutôt que purement antitotalitaire contre toutes les tyrannies. Nous ne demandons pas seulement l'appui de tous les gouvernements et de tous les peuples vraiment libres du monde libre, mais aussi la reconnaissance politique de cette parcelle libérée de notre territoire national présidée par le général Delgado, que le peuple portugais a choisi à la majorité et qui est notre chef de droit. Pour commencer notre action, nous ne faisons appel à aucune assistance politique ou matérielle des gouvernements étrangers, mais seulement au dévouement patriotique et au sacrifice du personnel sous mon commandement et celui de la base.
Une question avant de poursuivre là. Comment l'équipage et les passagers réagissent-ils?
L'équipage n'a guère de choix, d'autant que le capitaine Maya a opté pour l'obéissance. Quelques hommes et femmes se rallient au commando, mais la majorité reste passive, même si on assistera vers la fin à quelques actes de sabotage afin de précipiter le dénouement.
Mmh. Et les passagers alors?
Bon, au début, s'inquiète pas trop. Certains se disent même que l'aventure est piquante, et puis le service continue comme si de rien n'était. Mmh. Mais au fil des jours, l'angoisse va monter. et la plupart des passagers auront hâte d'en terminer et de regagner la terre ferme.
Mmh. Ça veut dire en tout cas que les membres du commando ne sont pas menaçants.
Tout à fait. Ils n'ont jamais donné l'impression aux passagers qu'ils étaient des otages.
Mmh. Bon, que se passe-t-il à partir du moment où le Santa Maria a été repéré ?
La marine états-unienne, sans doute à la demande pressante des autorités portugaises, envoie des bâtiments de guerre au devant du paquebot.
En quel but ? La raisonner ?
Non, non. Au minimum, il s'agit de le surveiller et surtout de faire pression sur Galvan pour qu'il mette le cap sur un port et débarque les passagers.
En fait, pourquoi les Américains ?
Le gouvernement Salazar est un gouvernement ami. Le Portugal a adhéré à l'OTAN. Et Washington s'est toujours accommodé du régime dictatorial en place à Lisbonne. Toutefois, ça se gâtera en partie à cause de la politique coloniale des Portugais. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et Kennedy, qui amorcera ce changement, vient tout juste d'arriver au pouvoir. Ouais.
Il va donc y avoir un dialogue entre les Américains et Galvan.
Oui, et au cours de ces échanges par radio, le capitaine insiste sur le caractère politique de son action. C'est contre Salazar qu'il se bat, contre la dictature et le colonialisme portugais en Afrique. D'ailleurs, il en appelle à l'ONU. Il ne veut pas être considéré comme un pirate, mais comme un insurgé. Et il demande que le Santa Maria soit reconnu comme un territoire portugais libéré. C'est, dit-il, à cette seule condition qu'il acceptera de jeter l'ancre dans un port.
Oui, de laisser les passagers descendent à terre.
Bien entendu.
Et la réaction au Portugal ?
Ah ben c'est la fureur. La presse aux ordres se déchaîne contre Galvan, et je vous passe les épithètes dont on l'affuble. Toutefois, Lisbonne n'envisage pas encore une action de force.
Ouais, alors, les Portugais laissent ce soin-là aux Américains.
Ah, éventuellement, oui. Et au Brésil, le général Delgado prend conscience du danger. Et
du danger d'arraisonnement.
C'est ça. Ouais. Les bâtiments de guerre américains se sont en effet rapprochés du Santa Maria, qui fait maintenant des ronds dans l'eau à quelques centaines de milles des côtes brésiliennes. Et des avions le survolent en permanence. Humberto Delgado prend donc l'initiative de s'adresser directement au président Kennedy, qu'il a connu personnellement lorsqu'il était attaché militaire à Washington et membre du comité exécutif de l'OTAN.
Ouais. Bah, c'est peut-être le moment là de me parler plus précisément de ce général Delgado.
Il est plus jeune que Galvan. C'est lui aussi un brillant sujet de l'école militaire. Et il a à peine 20 ans quand il participe au putsch militaire qui renverse la République portugaise.
Comme Galvan, donc.
Ouais, et quand Salazar devient président du Conseil et dictateur, de fait, Delgado ne trouve rien à redire et commence une carrière exceptionnelle. Dès 1936, il a alors 30 ans, il est nommé général dans l'armée de l'air. C'est à ce titre qu'il participe pendant la Seconde Guerre mondiale aux négociations avec les Alliés à propos des Açores.
Et de quoi s'agit-il, rappelez-moi ?
Salazar, bien qu'il ait été idéologiquement proche des puissances de l'Axe, a choisi de laisser son pays en dehors du conflit.
Ouais, la neutralité.
Une neutralité bienveillante. Les Portugais ont continué à commercer avec les nazis. Mais à partir de 1942, la situation évolue. Le Troisième Reich a été battu à Stalingrad et les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord.
Ouais, le vent tourne, quoi.
Ouais, Salazar avec lui. Aussi, quand les Anglo-Saxons lui demandent de pouvoir bénéficier d'une base dans les Açores, le dictateur portugais décide de répondre positivement. Et Delgado est l'un des membres de la délégation qui discute avec les Alliés. Ça lui vaudra d'ailleurs d'être décoré par les Britanniques. La suite de sa carrière est tout aussi prestigieuse. À la fin de la guerre, il est nommé chef de l'aviation civile. C'est lui aussi qui crée la compagnie aérienne portugaise et qui développe des liaisons régulières vers les colonies.
Bon, d'après ce que vous avez dit, c'est un pilier du régime.
Oui, il est ensuite envoyé à Washington en tant qu'attaché militaire, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, manifestement, au contact de la société nord-américaine, il évolue et prend conscience des tares de la dictature portugaise et il entre peu à peu en dissidence.
Mmh. Il devient un démocrate, si je vous comprends bien.
Oui, mais enfin un démocrate encore teinté de conservatisme. En tout cas, lorsque des opposants au régime lui proposent d'être candidat à l'élection présidentielle de 1958, il n'hésite guère.
Mmh. Et qui est derrière lui à ce moment-là?
Des démocrates, des catholiques libéraux, des monarchistes aussi. Et dans l'opposition, seuls les communistes lui refusent leur soutien parce qu'ils le jugent trop proche des Américains.
Et son programme
Il est très modéré, mais il se prononce contre le totalitarisme et pour une réforme de la politique coloniale. Delgado bénéficie aussitôt d'une grande popularité à travers tout le pays.
Oui, parce qu'il représente un souffle nouveau.
Effectivement, oui. Avec ce jeune général très charismatique, les Portugais espèrent en finir avec un régime honni, d'autant qu'il ne mâche pas ses mots. Quand on lui demande ce qu'il entend faire de Salazar s'il est élu, il n'hésite pas à dire « je l'obligerai à démissionner ».
Ce qu'il peut faire légalement s'il est élu président?
Oui, la Constitution le permet. Mais jusque-là, Salazar, qui occupe de façon ininterrompue la présidence du Conseil, s'est toujours arrangé pour faire élire des présidents de la République fantoches et aux ordres. Mm-hmm.
Donc, Delgado représente une véritable menace pour Salazar.
Oui, pour la première fois depuis plus de 20 ans. Alors, toute la machine de l'État se met en marche pour contrer Delgado. Mais malgré la fraude, le bourrage des urnes, l'intimidation des électeurs ruraux et le reste, le général rassemble quand même plus de 20% des voix.
À votre avis, aurait-il pu être élu à la régulière?
Bah, écoute, franchement, je n'en sais rien. Mais il aurait certainement rassemblé beaucoup plus de voix. Quoi qu'il en soit, aussitôt après, Salazar réagit. Il supprime l'élection du président de la République au suffrage universel.
Parce que le vent du boulet est passé trop près.
Bah, oui, naturellement. Et le dictateur s'en prend à Delgado. Il est viré de son poste à l'aviation civile, et comme il ne renonce pas à l'action politique, Lapide, la sinistre police secrète du régime, s'occupe de son cas. Tant et si bien que le général trouve plus prudent de s'exiler au Brésil, où on lui offre l'asile politique. Et il devient de facto l'opposant numéro un de Salazar.
Alors, revenons à l'aventure du Santa Maria. Delgado, m'avez-vous dit, s'adresse à Kennedy. Que lui demande-t-il?
En tant que vieil ami des États-Unis, c'est l'expression exacte qu'il emploie, il demande que cesse la surveillance exercée sur le Santa Maria.
Bref, il aimerait bien que les bâtiments de guerre américains s'éloignent.
Mais oui, car dit-il, cette surveillance nuit au secret des mouvements du paquebot.
Ouais, mais un secret éventé depuis bien longtemps maintenant.
Oui, qui ne pourra pas être recouvré, d'autant que le temps presse. À bord, les réserves de vivres et d'eau douce s'épuisent. Non, je crois que Delgado lui-même ne croyait pas que Kennedy accéderait à sa requête, mais c'était une façon d'assumer la responsabilité politique de l'opération. Et puis aussi de dire poliment au président américain, c'est une affaire qui ne vous regarde pas. Par ailleurs, Delgado n'avait peut-être pas vraiment envie que les navires états-uniens s'éloignent.
Oh, non, je comprends pas, il faut m'expliquer.
Lisbonne avait décidé d'envoyer deux bâtiments de guerre dans la zone. Il était certain que tant que les navires américains étaient présents, les Portugais n'oseraient pas tenter un coup de force.
Alors, d'une certaine façon, l'US Navy protégeait donc le Santa Maria.
Comme vous dites, d'une certaine façon, oui. Mais d'une manière ou d'une autre, il fallait maintenant trouver au plus vite une solution, parce qu'à bord du Santa Maria, la situation se dégradait.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
4 jours après la prise de contrôle du Santa Maria par le capitaine Galvan, Humberto Delgado accorde une interview au Daily Herald. D'emblée, il affirme que c'est lui qui a donné l'ordre de saisir le paquebot. Et il ajoute qu'il sera bientôt de retour au Portugal. Pour lui, la capture du Santa Maria constitue la première phase d'un plus vaste plan. Et la seconde phase, lui demande-t-on. Réponse. C'est un secret. Mais je puis vous assurer que je rentrerai au Portugal. Cependant, je ne puis encore vous dire si c'est une question de jours ou de semaines. Je prépare cette affaire avec Galvan et mes amis depuis 5 mois. Je suis allé les retrouver au Venezuela. Ensemble, nous avons décidé de saisir un navire pour commencer. Il y a un mois, nous avons décidé que ce navire serait le Santa Maria. Enfin, dans le même article du quotidien anglais, le général révèle qu'il a envoyé aux ambassadeurs de Grande-Bretagne et des États-Unis, au Brésil, le télégramme suivant. « J'ai l'honneur de prier Votre Excellence d'informer son gouvernement que l'affaire du bateau Santa Maria ne constitue nullement un acte de mutinerie ou de piraterie, mais bien une mainmise par des Portugais sur un transport portugais à des fins politiques portugaises. Je demande instamment à votre gouvernement de ne pas intervenir dans cette affaire. »
Galvan, en parfait accord avec Delgado, décide de se rapprocher des côtes brésiliennes au début du mois de février, plus de 10 jours après le début de l'opération.
Mais pourquoi le Brésil?
Il y a d'abord les liens traditionnels entre les deux pays.
Le Brésil, ancienne colonie portugaise.
Et donc éventuellement sensible au programme anticolonialiste des rebelles. Et puis, Delgado se trouve au Brésil, où le gouvernement lui a accordé l'asile politique. En outre, le nouveau président, Quadros, vient d'y être élu et investi quelques jours plus tôt. Delgado, qu'il connaît bien, estime qu'il peut accéder aux exigences formulées par le capitaine Galvan. D'ailleurs, dès que le Santa Maria arrive au large du port de Recife, la limite des eaux territoriales, Delgado prend les choses en main et gagne le bord du paquebot par ses propres moyens.
Mmh. Vous avez parlé des exigences de Galvan, hein. Quelles sont-elles?
Il veut bien laisser débarquer les passagers à deux conditions. D'abord, il veut bénéficier, lui et ses hommes, du statut de belligérant. Ensuite, il entend continuer à garder le contrôle du bâtiment et, bien sûr, il exclut toute tentative d'action de force par la marine brésilienne.
Quand vous me disiez tout à l'heure que les passagers n'étaient pas des otages, ça ne me semble pas tout à fait exact. C'est bien le sort des passagers qui est en jeu dans cette affaire.
C'est juste. Je voulais simplement dire que les passagers n'ont été à aucun moment menacés, à la différence des actes de piraterie aérienne ou maritime qui suivront.
Oui, d'accord. Enfin, quand même, il fallait préciser. Hein. Alors, la suite.
D'abord, il faut dire que les États-Unis, pas mécontents, ont passé le bébé aux autorités brésiliennes.
Leurs bâtiments de guerre ont fait demi-tour.
Non, mais officiellement, c'est la marine brésilienne qui s'occupe de l'affaire. Le nouveau président brésilien, contrairement aux attentes de Delgado et Galvan, se montre très prudent. Certes, il se déclare tout de suite prêt à accorder le droit d'asile au commando du Santa Maria, mais en même temps, il se déclare très préoccupé par le sort des passagers dont il se sent en quelque sorte responsable.
Bref, il exige qu'ils soient débarqués au plus vite.
Bien entendu. Et Galvan, après un dernier baroud d'honneur, doit abdiquer. Les passagers sont donc autorisés à débarquer.
Et ce baroud d'honneur, là?
Mais il aurait voulu que le Santa Maria soit remorqué au large et s'aborder. Mais les autorités navales brésiliennes ne pouvaient pas accepter. Je suis certain que Delgado n'était pas d'accord avec le fougueux capitaine.
Ouais, l'entente n'était pas parfaite entre les deux officiers.
Delgado se méfiait beaucoup de l'aventurisme de Galvan. Et cela finira par une rupture quelques mois plus tard. En attendant, le capitaine remet officiellement le Santa Maria aux mains d'un amiral brésilien. Et pour faire plaisir à Galvan, cela se passe au cours d'une petite cérémonie militaire sur le pont du paquebot et en présence d'une centaine de journalistes. Puis le capitaine et ses hommes sont autorisés à débarquer.
Ils ont donc obtenu le droit d'asile.
Absolument, hein, oui.
C'est la fin de l'aventure?
Galvan est amer, il aurait voulu obtenir davantage, et pourtant l'affaire a eu un retentissement énorme et a été ressenti comme un véritable camouflet pour le dictateur portugais.
Alors dès lors, c'est un succès hein, pour l'opposition démocratique portugaise.
Incontestablement, et Salazar ne tarde pas à se venger. Le procès par contumace des mutins, comme on les appelle au Portugal, a lieu un an plus tard. La presse les accuse d'avoir été manipulés par Cuba. Ils écopent tous de lourdes peines. 20 ans pour Delgado et Galvan.
Mais des peines par contumace, hein?
Évidemment. Ils n'ont pas commis l'erreur de rentrer au Portugal.
Ouais. Mais en dehors de ce camouflet qu'ils ont infligé au dictateur portugais, est-ce que l'affaire du Santa Maria produit des effets à l'intérieur du pays?
En métropole, non. Non, la police secrète veille et ne fait pas bon s'opposer à Salazar. C'est immédiatement la prison. Ou mieux, la déportation, ce qui arrivera à l'évêque de Porto. Alors même que l'église catholique est encore un des piliers du régime. Non, non, c'est dans les colonies que l'aventure du capitaine Galvan produit les effets les plus visibles. Le Santa Maria est à peine remis aux autorités brésiliennes que Luanda, la capitale de l'Angola, se soulève.
Et pour vous, il y a un lien de cause à effet?
Bon, c'est évident. Dans les colonies portugaises, la population autochtone a suivi avec enthousiasme l'odyssée du Santa Maria. Enfin, quelqu'un a osé défier Salazar.
Ouais.
Et au début de ce même mois de février, les militants nationalistes du MPLA, le Mouvement Populaire pour l'Angola du docteur Neto, se lancent à l'assaut de la prison de la ville où sont détenus beaucoup des leurs. Il s'ensuit une répression très féroce qui se traduit par des massacres. La puissance coloniale portugaise est encore loin d'accepter de se séparer de son énorme empire d'outre-mer.
Et que deviennent Galvan et Delgado?
Galvan, toujours réfugié au Brésil, jouit un temps de sa nouvelle popularité. Il est même question de la réalisation d'un film sur son aventure. Mais il se sépare peu à peu de ses amis, excédé par ses airs de bravache. Il commet aussi une erreur politique de taille qui justifie le divorce.
C'est-à-dire?
Il affirme condamner Salazar, sauf sur un point. Il est d'accord avec le dictateur quand celui-ci déclare que les colonies portugaises ne sont pas encore mûres pour l'autodétermination.
Ouais, c'est la rupture, là.
Bien sûr, car les opposants portugais pensent déjà, et ils n'ont pas tort, que c'est sur la question coloniale que le régime tombera. Galvan est donc désavoué. Il tente pourtant un nouveau coup en commanditant le détournement d'un petit avion de ligne qui assure la liaison entre le Maroc et le Portugal. Les pirates de l'air survolent Lisbonne et lâchent des tracts au-dessus de la capitale.
Des tracts,
oui. Oui, qui appellent les Portugais à déchirer leur bulletin de vote lors de la prochaine élection présidentielle. Puis, l'avion retourne se poser au Maroc. Les autorités de ce pays apprécient fort peu et expulsent Galvan et ses sympathisants.
Qui retourne au Brésil?
Oui, mais là-bas aussi, il devient de plus en plus indésirable et infréquentable. D'autant que les généraux brésiliens ont pris le pouvoir. Bref, la fin de la vie de Galvan est assez triste. Et quand il meurt dans un hôpital brésilien en 1970, il semble qu'il avait en partie perdu la raison.
Ah, triste fin, oui. Et le général Delgado, lui?
Ah, ben ça, c'est autre chose. Si le capitaine Galvan apparaît comme étant une sorte de condottiere, le général, lui, est un opposant politique autrement sérieux et décidé. À la fin de l'année 61, il prend le risque d'entrer clandestinement au Portugal et se met en relation avec plusieurs garnisons.
Il pense organiser un soulèvement militaire?
Ben, je vous l'ai dit, les officiers portugais ne sont pas encore prêts à se révolter. Seule une de ces garnisons se mutine le 1er janvier 1962. Un sous-ministre est tué, mais l'insurrection échoue. Pourchassé par Lapide, la police politique, Delgado ne doit son salut qu'à un militant communiste qui le cache chez lui. Puis il parvient à regagner le Brésil, où il est assez mal reçu, car on l'accuse d'avoir abusé de son asile politique.
Mmh. Alors, est-ce qu'il va pour autant se tenir tranquille?
Impossible. Maintenant, c'est une lutte à mort qu'il engage contre Salazar, et je pèse mes mots. En 1964, il s'installe en Algérie, où le président Ben Bella l'accueille avec les plus grands égards. Le choix d'Alger ne doit rien au hasard.
Oui, bien sûr, c'est alors la capitale des révolutionnaires du monde entier.
Et surtout des révolutionnaires africains. Ouais. Or, Delgado veut entraîner derrière lui tous les nationalistes des colonies portugaises. Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Et c'est avec leur aide, dit-il, que j'entrerai dans Lisbonne.
Ce général, c'est quand même fortement radicalisé, car vous m'avez dit qu'il était plutôt pro-américain. Or, tous ces mouvements nationalistes africains sont plutôt d'obédience marxiste, hein.
Vous avez raison. Et sur le plan intérieur, il a évolué de la même façon. Il prend en effet la présidence d'un front patriotique de libération qui a été créé par le Parti communiste portugais.
Il le sait?
Bien entendu. Il veut absolument unifier l'opposition. Il reste toujours persuadé qu'il faut employer la force pour renverser Salazar.
Ouais, la force, donc les militaires. Hein.
Aussi, quand on lui propose un rendez-vous avec des officiers prêts à entrer en rébellion, il n'hésite pas une seconde.
Et où ce rendez-vous, là?
À Badajoz, ville espagnole à proximité de la frontière portugaise. Delgado s'y rend donc avec l'un de ses collaborateurs, mais c'est un piège.
Un guet-apens?
Les prétendus officiers sont en réalité des agents de Lapide. Lapide qui n'a cessé de le surveiller depuis qu'elle l'a raté une première fois lors de cette insurrection qui a échoué. Delgado et son collaborateur sont abattus. On retrouvera leur cadavre 2 mois plus tard.
Et vous êtes certain que c'est Lapide, là, qui l'a fait assassiner?
Certain. Après la révolution des œillets, les meurtriers sont identifiés et reconnus coupables. Mais ils n'iront jamais en prison.
Et pourquoi alors?
Ces agents de Lapide en savaient peut-être trop sur certains, même des officiers qui avaient vaincu la dictature, et sur le personnel politique qui était maintenant au pouvoir.
En 1990, le général Delgado a été fait maréchal de l'armée de l'air à titre posthume, et sa dépouille a été déposée au Panthéon national à Lisbonne. Enfin, un dernier mot sur le capitaine Galvan. À l'occasion de sa mort en 1970, le journaliste du Monde, Marcel Niedergang, évoque ainsi cet homme de cœur qui aurait voulu être le Garibaldi du Portugal. Du capitaine au long cours de la marine portugaise, qu'il a longtemps été, il avait conservé le goût du commandement et le maintien volontiers autoritaire. Du condottiere, il avait le profil aigu, le regard clair, le panache, une préférence pour l'action directe et spectaculaire, le manque aussi de sens politique et peu de constance dans l'effort. À samedi prochain pour un nouvel entretien consacré au Portugal. Monsieur X a promis de me parler de la révolution des œillets. Et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez, en principe, obtenir des informations bibliographiques et même discographiques.
Bonjour, c'est Jacques Vendroux. Ce soir sur France Inter, grande zone à partir de 20h, Interfootball. Tous les matchs, tous les buts, toute la saison de football et à 22h, 23h et minuit, le rendez-vous important, le rappel évidemment de tous les résultats. Interfootball, également diffusé sur internet, www.franceinter.com. Rendez-vous donc ce soir à 20h sur France Inter Grande Zone.
Après le journal, vous retrouverez bien sûr Denis Chessou et son équipe CO2 Mon Amour. Aujourd'hui, les cantines scolaires peuvent-elles être bio? Et Jean-Marie Pelt s'arrêtera à la lettre O. comme l'olivier. Bon après-midi à l'écoute de France Inter. Il est dans quelques secondes 14h et puis je vous rappelle évidemment une nouvelle émission hein, depuis la semaine dernière, c'est à partir de 15h Le Monde selon WAM. Ça y est, il est 14h, le journal. Et on retrouve Michel Khalifa, bonjour.
Bonjour. Dans trois quarts d'heure, les commémorations du 11 septembre vont commencer aux États-Unis, trois ans après les attentats. Les cérémonies débuteront à 14h46, heure de Paris, par une minute de silence. C'est l'heure précise où le premier avion s'est écrasé contre l'une des tours du World Trade Center. Les noms de chaque victime seront ensuite lus à grande zéro par les parents et les grands-parents des victimes. 2749 personnes avaient trouvé la mort dans les tours jumelles. En fin de journée, deux faisceaux de lumière s'élanceront vers le ciel pour les représenter. L'Arabie Saoudite a été frappée par un attentat ce matin. Une voiture a explosé à Jeddah, dans l'ouest du pays. La déflagration a eu lieu à proximité d'un établissement bancaire, l'ancienne Saudi American Bank. Quatre hommes se trouvaient à bord du véhicule. L'un d'entre eux a été blessé et arrêté. Les trois autres ont pris la fuite. Ils se sont ensuite barricadés dans un bâtiment près du consulat américain de Jeddah. La police a alors encerclé ce bâtiment. Aucun bilan éventuel.